RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit après le match France-Norvège, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Jonathan Macardy. Jonathan, bonsoir.
Salut les gars.
Avec Ludovic Obraniak, bonsoir Ludo.
Bonsoir à tous.
Et avec Laure Lepailleur qui va nous rejoindre dans quelques instants, évidemment pour analyser le match France-Norvège, victoire de la France 2-1 ce soir à Nice face à la Norvège. Les Français sont en tête du groupe, 3 points, mais pas encore qualifiés pour les 8e, hein, puisque derrière le Nigeria a gagné contre la Corée du Sud aujourd'hui. Du coup, Nigeria a 3 points. Prochain match France-Nigeria. Voilà, bah oui, du coup, c'est pas encore fait. Les Norvégiennes aussi ont 3 points. Donc, il faudra attendre le dernier match lundi prochain pour compléter le tableau. Sachez que l'Allemagne a battu l'Espagne aujourd'hui. 1-0 chez les filles. Le 32-16 est ouvert. Le hashtag RMC Live est bien sûr. Direct Studio également disponible sur l'appli gratuite RMC Sport. Donc, n'hésitez pas à utiliser Direct Studio. Toute la soirée. On parle également de l'actu PSG, parce qu'il se passe des choses aujourd'hui. Mino Raiola est à Paris.
Ah, oui.
Et a priori...
Quand Mino est là...
Oui, il n'est pas venu pour aller visiter le musée d'Orsay,
ouais.
Si tu veux.
Ouais. Très beau le musée d'Orsay, d'ailleurs.
Ouais. Bon, je suis pas sûr qu'il...
Mais je pense que De Ligt, c'est aussi beau que le musée d'Orsay.
En revanche, il a rencontré Antero Henrique. Donc, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. On reviendra sur le Capuche Gate de l'après-match d'hier soir en Andorre également. Mais pour l'instant, bien sûr, c'est l'équipe de France qui nous occupe. Moi, je suis étonné par ce match parce que c'était sans doute le match le plus intense en termes de foot depuis le début de la Coupe du Monde féminine. Et franchement, c'était beaucoup plus intense que France-Andorre hier soir.
Probablement. Bon, c'est pas les mêmes objectifs et les mêmes ambitions non plus.
Mais en fait, ce qui a fait que le match était intense, c'est que la Norvège a été, c'était une équipe qui était franchement assez limitée techniquement, mais elle en rentrait dedans dès le début de match, quoi. Alors, il y a les 5 premières minutes où les Bleus, vraiment, t'as l'impression que ça va être une promenade de santé. Sur les 5 premières minutes, l'équipe de France domine totalement la Norvège. Mais après, la Norvège commence à mettre le pied, à aller presser un peu plus haut. Et ça aurait pu, ça avait tout d'un match relativement piège, hein, cette histoire.
Ouais, exactement. Et finalement, les Français s'en sortent bien.
Sur un pénalty un peu grossier.
Il y a pas péno pour toi?
Si, il y a pénalty.
Joël Quignoux dit il y a péno.
Bien sûr, non, Gilbert, il y a pénalty.
Bah, pour moi, non.
Ah ouais?
Bah non.
Mais c'est juste que
la Norvégienne, elle envoie son geste. Après, la Française touche le ballon. Bon, je sais
la
pas.
La faute est maladroite.
Bon, c'est de l'interprétation de toute façon.
La faute est très maladroite.
Après, c'est toujours soumis à ce qu'on voit en termes de vitesse réelle et puis en termes de ralenti. Si moi, je regarde l'action à vitesse réelle, je siffle jamais pénalty. Après, c'est sûr que quand tu prends la VAR, tu décortiques l'action,
le ralenti,
tu vois que le
accentue
pied,
toujours
ça accentue. Moi,
éventuel.
Honnêtement, à vitesse réelle, je siffle jamais parce que c'est dans le geste. Elle peut pas aller. Elle va jouer un ballon entre deux.
Ouais,
les deux mettent le pied continue sur sa lancée. Elle peut pas vraiment.
Mais contre l'action sur le coup, personne pense qu'il y a pénalty. On va être bien clair. C'est juste ça. Après, quand tu le revois sous les angles, oui.
Mais il y avait une jurisprudence. Ouais. Laure nous a dit qu'il y avait une jurisprudence quelques jours auparavant avec le match de l'Afrique du Sud, je crois.
Oui.
Donc du coup, bah ça siffle pénalty.
Dans le jeu, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, évidemment, c'était pas la même adversité que contre la Corée du Sud le premier match. Là, on est monté d'un niveau. Hein.
La Norvège était limitée, mais physiquement était présente. Elle en causait beaucoup de problèmes. Après, je trouvais que l'équipe de France avait vraiment dominé, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans termes de réalisme et dans l'animation offensive au sens large du terme. Il y a une action que j'ai notée, c'est qui est pour moi est symbolique des carences de l'équipe de France de ce soir. C'est à la 30e, quand à un moment Diagne déborde. Il y a un centre sur le côté qui arrive et t'as deux joueurs, il y a Diagne et Gauvin qui font le même appel au premier poteau, alors que second poteau il y avait plus personne et il aurait fallu qu'une des deux joueurs décroisse sa course. Et je trouve qu'en fait c'est symptomatique parce que les occasions elles se les créent, les situations il y a ce qu'il faut, il y a de la maîtrise au milieu de terrain parce que le milieu de terrain français est vraiment allez par rapport à tous les matchs qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde, le duo qu'on a au milieu de terrain il est largement supérieur à quasiment toutes les équipes, mais devant ça reste encore un petit peu brouillon et c'est un petit peu rageant parce que on sent qu'il y a de quoi faire entre le potentiel athlétique de Gauvin.
Il n'y a pas une connexion dingue entre Le Sommer et Gauvin, quoi.
Exactement. Mais Le Sommer, c'est une très bonne joueuse, on le sait, mais je pense que c'est une question de positionnement et de complémentarité avec sa numéro 9. Après, ça a été un petit peu mieux quand Tine est remontée d'un cran en seconde mi-temps. Il y avait un petit peu plus d'activité, de création, mais il y a beaucoup de progrès à faire parce que le potentiel est là.
On attend bien sûr les réactions et on aura la conférence de presse de Corinne Diacre également un peu plus tard, la sélectionneure française. Un mot sur le CSC de Wendy Renard. Faudrait qu'elle apprenne à faire des choupeaux. Alors, si tu sais faire une choupeau dans ce genre de situation-là.
C'est le plus dur à faire, une choupeau.
C'est vrai. C'est vrai que c'est juste choupeau qui sait faire les choupeaux en même temps.
Bah oui. Mais c'est une erreur technique. Ça peut arriver. Elle veut sortir le ballon d'un plat du pied. On le met en corner. Elle le prend avec le talon. Ma foi, ça peut arriver.
Je l'ai pas trouvé vraiment dans son assiette ce soir par rapport au match de la Corée. Même défensivement, je l'ai pas trouvé hyper rassurante, contrairement au match précédent.
Les Norvégiens ont beaucoup mieux défendu sur elle, sur les coups de pied arrêtés.
Ah bah après, il y a une question de gabarit, Gilbert. Hein.
Oui.
Je pense que les Norvégiennes étaient un petit peu plus grandes et denses physiquement que les Coréennes.
Tu te souviens tant que les Coréennes sont petites?
Bah oui.
Tu peux bien défendre en étant petit.
C'était un fait. Non, mais sur les duels aériens, à un moment, il y a une question de détente, il y a une question de gravité. C'est plus compliqué. Si tu fais 1m60, c'est plus dur de prendre
un ballon. Regarde, Jean de Macoun, par exemple. Ultra performant de la tête, le mec il est tout petit.
Ouais, mais t'as joué avec Ludo.
T'as été le chercher loin.
C'est
un spécimen de la nature.
Joueurs, avec qui j'ai joué, Franck Beria aussi. Franck Beria qui fait 1m77, je crois, et qui avait une détente, je crois, équivalente à plus de 75 cm de détente.
Enfin, c'est combien, Macoun? Il faisait 1m70.
Tiens, on écoute Gaëtan Tiné tout de suite avec Anthony Reich.
Et elle l'a montré encore ce soir. Je pense qu'elles ont de très très bonnes joueuses. Elles ont un collectif et un jeu très huilé. Et en même temps, elles n'ont pas eu énormément de situations. Nous, on en a eu. Et il faut encore qu'on monte en puissance. Mais malgré tout, c'était un très beau match. Un match de Coupe du Monde.
Valérie Gauvin, qui avait été écartée du premier match, pas titulaire du Monde. Là, elle revient, elle marque un but. C'était important pour elle?
C'était important pour l'équipe surtout. Ça l'est sans doute pour elle, mais c'était important pour l'équipe parce qu'il nous faut. Il nous faut ses buts et elle l'a mis et ça nous a fait du bien, donc c'est très très bien.
C'est quoi les maîtres mots ce soir après cette victoire en attendant le Nigeria?
Se récupérer, parce que la compétition va être longue, je l'espère, et pour aller jusqu'au bout, il va falloir récupérer physiquement.
Merci.
Voilà, Gaëtan Tillet dans la zone d'interview du stade de Nice. David est avec toi au 32-16. Salut David.
Oui, bonsoir Jonathan, Ludo, Gilbert.
Salut David. David, est-ce que tu t'es régalé?
Régaler, non. Ça serait quand même un grand mot. C'était un match de bonne facture, évidemment.
Non, mais attends, franchement.
Contre une équipe first class. Hein,
t'as vu un meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde?
Non.
Tu le diras, tu les as peut-être pas tous regardés.
Je suis d'accord que c'est certainement un des meilleurs matchs.
Dans l'intensité.
Par rapport à l'opposition. Ouais. Mais je pense pas que la Norvège soit quand même de la first class. Hein. Quand je vois des trucs, les Bleus passent le test et tout. Oui, certes, c'est bien d'avoir gagné. Après, je suis pas sûr que la Norvège irait au bout quand même.
Non, ouais. C'est sûr.
Oui, on a vu d'autres.
Après, les Américains hier soir. Pénalty, vous aviez eu le débat juste avant. Moi, personnellement, je le siffle jamais. Hein. C'est une fin de geste. Si Torrent n'est pas là, c'est pas un truc, c'est pas un tacle mal maîtrisé qui amène une faute. C'est vraiment une fin de geste qui retombe. Bon, effectivement, elle l'a touche, hein, sans problème. Mais moi, perso, je siffle pas ce penalty là. Après, bon, bah voilà, c'est l'interprétation de l'arbitre. Comme quoi, la VAR, hein, ça reste quand même une interprétation.
Mais ça déforme la perception, parce que comme on le disait avant que tu comprennes à l'antenne, David, à vitesse réelle, personne ne pense qu'il y a penalty. C'est quand tu le regardes au ralenti au final.
Ouais, c'est vrai.
C'est un des problèmes de la VAR, c'est que le ralenti accentue forcément toujours. D'ailleurs, moi, je milite pour que on montre aux arbitres les actions à vitesse réelle et pas au ralenti.
Ah oui.
Mais bon, là, exactement. D'ailleurs, on a bien vu que parce qu'on voyait l'image que regardait l'arbitre.
Quand elle stoppe l'image, c'était au ralenti. Quand elle arrive devant l'écran, le pied il est posé sur le genou. Donc,
voilà, exactement.
À partir de ce moment-là,
arbitrage maison.
Difficile de.
Et on est en France quand même. Mince, attends, autant qu'on en tire quelques avantages aussi.
Bon. Non, mais de toute façon, je pense que la France globalement mérite sa victoire. Voilà. Moi, je m'attendais un petit peu mieux de la Norvège quand même, qui a jamais été dangereuse ou presque, on va dire, si on exclut le truc de Renard, qui est un peu une blague. Mais voilà, c'est un match de bonne facture. De toute façon, c'est un match qui peut être rassurant pour les Bleus parce que gagner le deuxième match permet, même si là elles sont pas encore qualifiées, vu que le Nigeria a gagné. Bon, voilà, ça rassure, ça emmène quelque part un petit peu quand même sur les tours d'après, même si c'est pas encore officiel. Et puis il y a une belle équipe, il y a une belle équipe de France, moi je trouve.
David, merci à toi et bonne soirée. continue de discuter de l'équipe de France féminine ensemble, bien sûr, avec vous au 32-16. J'ai pas mal de réactions sur Direct Studio. Match très suivi ce soir. Alors bon, il y a même pas mal de comparaisons avec France Andorre, une nouvelle fois. Comme le week-end dernier, il y avait eu de la comparaison entre le France-Turquie.
C'est ridicule, ça.
Bon. Il fallait faire rentrer Cascarino plus tôt et faire sortir Diani parce qu'elle a bien moins apporté que contre la Corée. C'est vrai qu'elle a un peu baissé Diani en deuxième mi-temps. Amandine Henry est en direct de la zone d'interview, on l'écoute.
Ouais, bah après je pense que j'ai pas revu les images, mais bon, s'il y a pénalty, je pense que c'est logique, donc merci pas.
Du coup, il y a une femme qui faisait son retour ce soir, Valérie Gauvin, après avoir été un peu écartée du premier match, pas titulaire du Mans. C'était important pour elle de marquer, du coup?
Oui, c'est important pour elle individuellement, mais collectivement aussi, c'est un but très important qui nous remet sur le droit chemin, donc surtout en début de deuxième période comme ça, c'est important.
C'est quoi le maître mot maintenant après cette victoire face à la Norvège et avant le Nigeria?
Bah, d'abord récupérer et continuer comme ça.
Parfait, merci.
Voilà, Amandine Henry qui était en direct avec nous. Oui, tu viens.
Elle a encore été très forte. Hein. Elle est vraiment tolière au milieu. Hein.
Busaglia.
Les deux, ah ouais, ils sont vastes. Bah oui, oui, mais c'est le point fort de l'équipe de France. Je pense.
Très bien.
Il y a une belle complémentarité.
De Bakou qu'elle récupère.
Et puis, ce qui est l'histoire aussi, Busaglia, elle a quand même décidé de lâcher le FC Barcelone où elle jouait, dans un club qui est à ses côtés au niveau du football féminin, puisqu'il a fait la dernière finale de Ligue des Champions pour revenir à Dijon pour assurer sa place en équipe de France. Donc du coup, t'en as une qui sait parfaitement gérer les temps forts, les temps faibles, qui sait se placer en conséquence. Et puis t'as Amandine Henry qui, quand il y a besoin d'apporter le surnombre,
elle a une vraie caisse,
elle a le volume de jeu pour pouvoir faire le box to box. Et c'est un vrai avantage pour cette équipe.
Ouais. Après, là, on parlait des points forts, mais dans les points.
T'aurais quitté Barcelone pour jouer à Dijon et assurer son équipe de Pologne. Est-ce que tu l'aurais fait?
Et pourquoi pas, tu sais, pour jouer des fois une compétition
majeure.
Non,
tu l'aurais pas fait. Arrête, tu l'aurais pas fait.
Bien sûr que non.
Eugénie Le Sommer en direct.
Special for me.
Ah, en anglais. On va essayer de le reprendre en français, hein. Voilà, elle répond à la presse peut-être norvégienne.
Là, on a parlé de ce qui allait. Je pense qu'il y a quand même des points d'amélioration. Ouais, j'ai trouvé que la gardienne Boisy, elle a pas fait d'erreur, hein, mais je l'ai pas trouvé hyper sereine. Il y a eu 2-3 ballons, notamment au début de match, ou avec des relances, ou la première occasion norvégienne.
Top le sommet en français.
C'est juste magique de jouer dans ce stade plein avec tout ce public derrière nous. C'est juste incroyable et c'est vrai que je les remercie pour ça.
Vous marquez votre deuxième but ce soir. C'est encore un pas de plus, on va dire.
Oui, un pas de plus. Après, le plus important, c'est la victoire. Si j'avais marqué et qu'on ne gagnait pas, j'aurais pas été contente. Donc là, je suis contente parce qu'il y a les deux, forcément. Mais le plus important, c'est d'avoir gagné ce soir et de vous essayer de terminer première de ce groupe. Il va falloir aller chercher la victoire contre le Nigeria maintenant et on va se concentrer sur ce match.
Ok, merci.
Voilà, j'ai dit le sommaire en direct. Je t'ai recoupé, pardon.
Ouais, je disais juste. Le sommaire qui t'a... Bah, bien sûr. Je disais que Boisy ne dégageait pas une sérénité extraordinaire, même si elle a pas fait d'erreur. En début de match, il y a cette occasion pour les Norvégiens, elle relâche le ballon, ça fait un peu bizarre. Et même dans ses prises de balles, bon, je pense que c'est pas hyper rassurant. Et puis là, on voyait le sommaire. Et je pense qu'un des vrais points d'amélioration, on parlait des carences offensives de l'équipe de France, c'est l'entente entre elle, sa latérale, Majeri, et Gauvin. J'ai l'impression que les deux marchent un petit peu sur les pattes. Le Sommer libère peut-être pas assez son couloir pour Majeri, qui a l'air d'être pleine de bonnes dispositions et qui, sur les 2-3 ballons qu'elle a pu avoir, a une bonne qualité de centre. Et je pense que ça pourrait être un petit peu plus exploité.
Qui c'est qui le rejoint? Laure Le Payeur, de retour.
Bonsoir.
Salut, Laure.
Salut.
Bon, alors on discutait. Alors, on a parlé déjà de Boisy, on a parlé plein de choses en fait. On a entendu les premières réactions. Moi, j'étais plutôt favorablement étonné par le rythme toute la soirée. Le résultat est là. Bon, tout le monde n'est pas d'accord sur le péno. Hein.
Ah bon. Moi, pour moi, il y a penalty, mais
à vitesse réelle.
Pas pour moi.
Non.
Geste non maîtrisé à vitesse réelle, c'est vrai que et j'aurais après, peut-être pas revois, sifflé, oui. Mais quand on revoit la faute, effectivement, pour moi, il y a penalty. Elle vient contrer le ballon et le geste est pas maîtrisé. On voit d'ailleurs la trace sur la cuisse de Marion Torrent. C'est plutôt bénéfique pour l'équipe de France parce que ça a été compliqué quand même dans la réalisation du dernier geste.
Qu'est-ce qui peut être encore amélioré là quand tu vois le match de ce soir?
Moi, c'est surtout l'efficacité offensive. Je trouve que dans l'utilisation du ballon, ça manque parfois de variété dans le jeu. C'est assez stéréotypé, des courses qui sont pas combinées. Et puis pour dire sur les cas individuels, je suis c'est pas déçu. Je pense notamment à Eugénie Le Sommer, qui est quand même la joueuse d'expérience de cette équipe. Elle n'est pas encore arrivée à son niveau, donc c'est que le deuxième match. Elle revient aussi de blessure, mais ce côté gauche qui est d'habitude un côté fort du côté de l'Olympique Lyonnais, avec cette combinaison avec Majerie et Le Sommer, on le retrouve pas forcément ce soir.
C'est
Eugénie Le Sommer a tendance à trop rentrer. Sans, ça surprend moins l'adversaire. Ils ont un petit peu étudié tout ça. Donc c'est ça, un petit peu cette...
Est-ce qu'elle est compatible avec Gauvin, en fait? C'est peut-être ça la question.
C'est peut-être la question, mais ça avait été plutôt concluant dans les matchs de préparation, cette attaque. Donc je reste persuadée que ça peut être une bonne formule. De toute façon, en attaquant deux pointes, il n'y a pas non plus beaucoup de choix. À part peut-être mettre Eugénie Le Sommer aussi en point de cette attaque.
Elle n'était pas blessée, Majerie
Elle a été blessée, elle a eu des douleurs aux adducteurs, aux ischio-jambiers, donc une préparation un petit peu perturbée après la finale de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça aussi qu'elle était, elle avait eu du mal à finir le premier match, à manquer un petit peu de rythme, okay. Et ça se voit un petit peu. Alors là, elle monte en puissance, je l'ai trouvée quand même un peu mieux sur ce match, mais elle peut faire beaucoup mieux.
Parce qu'elle a une bonne qualité de centre, c'est dommage de pas s'exploiter ce côté-là. Mais je pense que c'est ce qu'on disait avant que t'arrives, c'est que les trois là,
Le Sommer, que Majerie,
ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait, les trois, le Sommer, Majerie et Gauvin, t'as l'impression qu'ils se marchent encore un petit peu sur les pieds, que c'est pas fluide de ce côté-là, quoi, dans l'animation.
Et surtout, Thauran, je trouve que c'est la bonne surprise de ce début de mondial. Moi, je la connaissais dans son abnégation, son service. Elle se met au service du collectif. Elle défend beaucoup. Elle commate beaucoup de brèches. Et on la voyait moins
projetée. Elle prend pas l'eau, tu veux dire.
Elle prend pas l'eau, comme dirait Lionel. Et c'est vrai que je déplorais un petit peu ce côté où elle avait du mal à se projeter vers l'avant. Mais la combinaison avec Diani, on l'a vu beaucoup aller sur le front de l'attaque. Après, il y a la qualité de centre à ajuster du côté de Thauran, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Elle monte en puissance aussi, cette joueuse, et c'est la bonne révélation de ses débuts de Coupe du Monde.
Accueillons Maxence, qui est là. Wendy Renard d'abord, qui est en direct de la zone d'interview.
Je pense qu'elle avait surtout la place d'être un peu plus patiente. C'est pour ça qu'on a manqué, je pense, un peu de présence devant le but. On était un peu trop loin, mais ouais, on s'attendait à une grosse équipe. Et ce soir, on a démontré qu'on avait aussi des ressources, qu'on a fait le dos rond quand c'était difficile. Et on a su aussi à réaccélérer quand il fallait. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Et bien
récupérer. Wendy, quand Eugénie marque le penalty, vous êtes seul avec Ridge dans la moitié de terrain. Vous tardez à retrouver les autres. Vous jouez sur elle, vous la prenez dans vos bras.
C'est un soulagement pour moi, en fait. En fait, vous passez de tout au tout, en fait. Là, vous arrivez à. L'équipe arrive à ouvrir la marque. Derrière, c'est vrai, dans ces situations-là, vous vous sentez seul, en fait. Même comme une conne, limite. Mais après, les coéquipiers ont été là pour moi. Et ça a démontré. Ça démontre tout simplement notre force aussi, et la force du collectif. Donc, dans ces moments-là, on se sent seul parce qu'on ressent forcément. Le but, et on se dit tout le temps qu'on n'a pas marqué, c'est forcément compliqué. Même quand on a marqué, c'est encore dans la tête. Ça fait partie du football, et c'est ça qui nous permet de garder, c'est ça qui nous permet de garder les pieds sur terre, parce que je m'enflamme pas.
C'est également soulagé
de son but contre son camp, bien sûr. Voilà, Wendy Renard qui réagissait après. Oui, on en a parlé aussi de ce but. Moi, je me demande si en fait on lui parle peut-être pas, parce que si on lui parle, elle peut la laisser passer. Il y a différentes solutions quand même.
Je pense surtout qu'elle fait une erreur technique, et elle a ce moment d'incertitude où elle ne sait pas si elle doit contrôler le ballon ou le dégager, et du coup ça fait un entre-deux où elle tape le ballon du talon et malheureusement elle le pousse au fond des filets. C'est vrai qu'elle n'est pas coutumière du fait, c'est quelqu'un qui a plutôt de la maîtrise technique. J'ai été quand même assez surprise de cette erreur.
Tiens, on a Paul, il est là. Paul, il était au stade. Paul, salut.
Ça va les gars?
Salut Paul.
Déjà gros big up à vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai été au match. J'ai gagné 4 places grâce aux grandes gueules ce matin.
Magnifique.
C'était à l'Alliance Riviera, fais gaffe à ta voiture après, hein.
Eh ben, écoute, on vient de la récupérer. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc magnifique.
Super.
T'as passé une bonne soirée.
Ouais, franchement une bonne soirée. C'est marrant que vous parliez de la relation Le Sommer avec Majerie. Il me semble, c'est exactement ce que je disais à Max en antenne avant que vous évoquiez le sujet. c'est qu'on a l'impression que qu'elles se marchent sur les pieds les deux et
non, sans connaître Gauvin, nous.
Les trois en fait, c'est les trois, c'est
sans,
ce côté.
Sans avoir l'habitude de regarder ni Lyon ni quoi que ce soit, c'était vraiment notre premier match au stade en allant voir les meufs. Et on a vu que moi je me suis dit mais Majerie elle touche pas assez le ballon cette fille, elle en a du ballon et elle le touche pas assez j'ai l'impression. Donc c'est un peu ce que vous disiez. Diani super impressionnante mais dans le dernier geste elle avait du mal à
c'est très brouillon ouais.
Et sinon franchement que Henri en vraie patronne je trouve. Voilà. Ça c'est mes trois points.
Très bien. Ah bah, bon. Écoute c'est concis, c'est précis
et en plus t'as récupéré ta caisse, c'est parfait.
Et en plus on a récupéré notre caisse, c'est clair.
Oui, parce qu'il y a des problèmes de fourrière hein, dans le stade à Nice.
Et c'est une des raisons pour lesquelles le stade n'est pas souvent rempli. Hein. Il y a plein de gens qui ont compris.
35 000 personnes ce soir.
Bah là, ce soir, c'était plein.
Là, c'était plein, mais je te parlais pour en championnat quand c'est logique.
Non, mais comme quoi, c'est possible que ce soit plein. Pas un peu
c'est un événement
bidon,
exceptionnel,
c'est
Gilbert.
Parking, là.
C'est un événement exceptionnel.
Du coup, il y a moins de chances de se renouveler la bagnole quand c'est plein, quoi. Il y a plus de bagnoles.
Ah joli,
pas faux, bonne pas faux. Bon calcul mon pote.
Merci Paul en tout cas.
Ciao, ciao les mecs, bonne soirée.
Bonne soirée. Alors il y a pas mal de réactions. On nous dit ouais mais attendez là, oh arrêtez. Du coup on va terminer première, on va jouer les États-Unis en quart.
Il y a pas de calcul à faire. Voilà, il faut gagner.
Alors tu termines deuxième, tu peux prendre l'Italie en huitième puis l'Angleterre en quart.
Moi justement quand je vois le match de ce soir, je trouve que c'est bien d'avoir gagné. Bien d'avoir gagné parce que clairement face au Nigeria. Corindia, il faut qu'elle fasse tourner l'ensemble de l'équipe. Il faut qu'elle donne beaucoup plus de fraîcheur. Il y a les Lyonnaises qui ont eu une saison très longue. Il faut arriver sur ces huitièmes en pleine bourre. Et là, je pense qu'il y a certaines joueuses qui ont besoin de souffler si tu dois aller loin dans la compétition.
Mais oui, mais là, le problème, c'est que c'est pas un match de coiffeuse.
On peut le faire. Un point suffit hein, pour finir premier, voire c'est pas grave si on finit deuxième. La France est sûre d'être qualifiée. On peut prendre un risque de faire tourner l'ensemble de l'équipe.
Comment ça, tu es sûr d'être qualifiée?
Bien sûr, à 6 points.
Et les autres ont 3 points.
Ouais, mais ça.
Il y a un cas où tu peux ne pas être qualifié.
Ouais, il y a un cas, mais un match nul suffit.
C'est quoi la virage générale? Là, c'est la FIFA. Tu perds 3-0, j'en sais rien, ou tu perds 3-1 pendant que. Ah bah, attends.
Mais je pense que c'est aussi. C'est aussi l'occasion de prouver et de montrer que cette équipe, que c'est.
Quel joueur t'aimerais voir?
Moi, jouer sur cette équipe, on peut mettre Cascarino titulaire. Je pense qu'une joueuse comme Viviane Asseyi, qui est une joueuse de percussion sur le côté gauche, face aux Nigérianes, ça peut être intéressant. Et puis, j'aimerais bien voir
derrière,
en défense centrale.
De la Tico, là.
Satou Tunkara.
Ouais, elle est forte. Ouais.
Elle est capable de tenir sa place. Faire souffler les latérales. Et notamment Torrent. Je ferai jouer Karchaoui à gauche. Et pourquoi pas Efperissé à droite. Je pense qu'il y a beaucoup de changements à faire. Il faut faire souffler une milieu de terrain.
Ouais. Et Gaëtan Chinet, t'as trouvé comment son match?
Difficile en première mi-temps, j'ai trouvé.
Un peu mieux quand elle était plus proche de son attaquante, mais elle reste très discrète.
Laure, depuis le début, elle est aux abonnés absentes.
Moi, je trouve que elle perd.
On parle de l'animation offensive. C'est elle qui doit cristalliser justement. C'est elle qui a les responsabilités justement pour faire jouer ses coéquipières puisqu'elle est au centre du jeu. Elle se situe souvent en décrochage de Gauvin. Or, on n'arrive jamais à la trouver.
Elle est perdue.
Je conçois que c'est une joueuse particulièrement talentueuse et expérimentée, mais elle passe à côté de son début de compétition.
Ça veut pas dire
on ne la verra pas plus, mais c'est vrai que c'est elle, son rôle, c'est de fluidifier justement l'animation offensive. Et on la touche que trop peu souvent. Après, moi, je te l'ai dit, moi, le rôle de numéro 9, alors c'est sûr que Gauvin nous met le but qui nous délivre, enfin qui contribue à gagner ce match. Moi, je regrette vraiment l'absence de Katoto, franchement, sans déconner, parce qu'elle pèse vraiment sur les défenses.
Ah, aussi, non
oui, mais moi, je pense qu'il manque un profil de contre-attaqueuse avec un peu plus de vitesse, de puissance.
Gauvin, j'ai quand même été déçu en première mi-temps. Je trouve que ça a été mieux en deuxième. Elle a réussi à mieux garder les ballons. Son rôle, c'est avant tout de permettre à son équipe aussi de ressortir les ballons. Et plusieurs fois, où elle a eu cette opportunité, elle est quand même athlétique. Elle n'a pas rivalisé, réussi à garder le ballon dos au jeu. Et elle était peu de fois dans la surface de réparation. Après, c'est compliqué sur le front de l'attaque. En attaquante de pointe, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Et c'est là où je te rejoins, où éventuellement, dans le groupe, il est
possible. Pourquoi t'associerais pas le Sommer
Parce qu'elle a rarement joué dans ce système-là, à deux attaquantes. Et Eugénie Le Sommer, quand elle est plutôt dans l'axe, elle est bien avec deux. Quand elles sont deux. Maintenant, ça serait changé. Elle a éventuellement son système privilégié, c'est celui-ci, le 4-2-3-1. Elle en a essayé d'autres, mais c'est celui-ci dans lequel elles sont plus convaincantes.
Je vous fais un scénario. Si la France perd 3-0 ou par 3 buts d'écart avec la Norvège gagne, la France est éliminée.
Ouais, ça vaut quoi le Nigeria? C'est ça la vraie question.
Non, il faut quand même penser que les meilleurs troisièmes sont qualifiés. Donc la France, avec 6 points, est sûre de passer au prochain tour. Vu qu'elle est meilleure troisième.
Ah oh, non, mais là, tu ne mets
pas. Mais
moi, j'ai.
Il y a les meilleures troisièmes, bon, donc la France est obligée de passer. Elle est obligée d'être qualifiée. Elle a 6 points.
Non, mais non. Il peut y avoir d'autres meilleures troisièmes qui ont 6 points aussi.
Ah, c'est peu probable.
Bah,
c'est
ça vaut quoi le Nigeria alors? C'est ça la question.
Nigeria, la France est largement au-dessus maintenant.
Les coiffeuses.
Ça va être. Bleu.
Bah, la Norvège a gagné 4-0 contre le Nigeria, si mes souvenirs sont bons.
Ouais.
Donc bon, voilà.
On a
normalement, bon, ça devrait être une formalité.
Non, mais moi, je veux bien toujours, je te suis, hein, alors je te fais confiance. Mais il y a toujours un cas mathématique.
Et on a connu tellement de rebondissements cette saison.
Depuis
qu'on
la Ligue des Champions,
hein,
je dis plus rien.
Exactement,
moi.
Ouais.
Il est là, le matheux qui justifie son bac S à faire les petits comptes.
Moi ouais, bah. Ah non, moi, je suis nul en maths. Il y a pire que moi, il y a rien.
Petit compte d'apothicaire.
Puis d'abord, j'ai passé un bac B à l'époque. Ça n'existe plus, mais.
C'est équivalent à quoi?
C'était ES.
Ah, okay.
C'est l'ancien bac ES.
Très bien.
C'est le bac ES des vieux. C'est le bac B. On va conclure avec Maxence qui est là au 32-16. Salut Maxence.
Bonsoir les gars. Bonsoir,
salut Maxence.
Madame. Bonsoir
salut
Maxence. Maxence.
Qu'est-ce que t'en as pensé toi?
Bon, ben, un petit peu ennuyeux quand même.
C'était dur.
Comment?
Il y avait du suspense, du rythme. Moi je sais pas, je te trouve.
Ah ben, merci Wendy Renard hein, pour le suspense. Il en fallait un petit peu. Mais sinon non, le premier but c'est quand même vous dites Gaëtan Siné était pas top. Moi je trouve que sur le premier but c'est elle qui donne le caviar en fin de compte. Parce que sur le centre de Majeri, c'est elle qui fait le bloc au premier poteau.
Oui.
Et ce qui libère en fin de compte Gauvin.
C'était un petit peu une action à Thomas Müller.
Pour le centre dans une zone quoi en fait. Et moi je trouve que c'est Gaëtan Siné qui donne qui fait le bloc et qui permet en fin de compte à Gauvin de marquer le premier.
Oui, mais c'est comme le Sommer qui marque son penalty, qui donne l'avantage. Certes, elle est influente sur le match, mais sur sa prestation, moi Gaëtan Siné comme Gilles Sommer, je les ai déjà vus bien meilleurs. Elles sont pas à 100% de leur capacité. Alors elles vont monter en puissance probablement au fur et à mesure de la compétition. Mais sur ces deux premiers matchs, permets-moi d'être un peu pas déçu, mais je sais qu'elles peuvent faire mieux.
Après, je pense que
c'est Gauvin. La clé, c'est Gauvin. Si Gauvin joue un petit peu plus proche, en fin de compte, ça permettra aussi à Gaëtan Siné de jouer en doublement avec elle et de pouvoir aussi accéder facilement à Diani sur un côté ou Cascarino plutôt parce que Gaëtan Siné par rapport à Cascarino sur ce qu'on voyait sur les matchs amicaux le Sommer sur le côté gauche, ça joue quand même assez ensemble. Par contre, là, ils ont demandé, je pense que c'est Diacre qui a demandé, à mon avis, de jouer vraiment sur les côtés, et ça a bloqué, en fin de compte, deux arrières d'ailes à faire des centres. Parce que, normalement, une Majerie et une Torrent, sur les championnats et sur les matchs que l'on a vus, ça centre beaucoup plus. Beaucoup plus. Et c'est pour ça aussi, le Sommer a bloqué un petit peu Majerie, c'est qu'à mon avis, elle a eu des consignes. En deuxième mi-temps, elle est un petit peu plus rentrée. Par contre, ce que je discutais au début avec votre camarade, c'est que pour moi, la formation à la française commence à montrer ses lacunes. Alors, j'ai développé juste deux petites secondes. C'est que au niveau des centres, on formatise et on fait nos nanettes, nos filles, des robots. On voit Diani, on voit Cascarino faire des 1 contre 1 de dingue sur les côtés et faire des centres, mais à la mort moelleux. C'est comme si on leur mettait 4 plots. Et on leur disait, le ballon, il doit tomber ici. Mais.
Tu veux dire qu'il faut lever un peu plus la tête avant de centrer. Il y a un cas où Diani, effectivement, a mis un mauvais centre en retrait.
Ouais, c'est arrivé, mais ça se traduit aussi par le peu de solutions dans la surface de réparation. Souvent, on a eu une joueuse dans la surface. Oui. Donc, forcément, c'est difficile pour la centreuse. Alors que normalement, on est censé en trouver au moins 3. Mais une deuxième, une en retrait. Et c'est là où ça pêche.
C'est l'entente globale entre les trois joueuses de devant. Comme on en parlait en début d'émission, pour moi, l'action, là, en début de match, où il y a Gauvin et Diani qui se rentrent dedans alors que le but est grand ouvert et qu'il fallait faire l'appel au second poteau, c'est symptomatique de tout ce qui va pas pour l'instant dans l'animation offensive. Après, je peux rejoindre Maxence dans le fait que qu'il ait trouvé le match ennuyeux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Norvège, c'était relativement faible. Franchement, faut le dire, à part être agressive.
Moi, je compare avec les autres matchs de la Coupe du Monde féminine, moi.
C'est pas trop faible.
Techniquement,
non, aussi, pas trop extraordinaire.
Mais s'il y a eu beaucoup de déchets d'un côté comme de l'autre dans les 30 derniers mètres, c'est peut-être pour ça que ça peut un petit peu laisser sur la fin. Mais après, en tout cas,
c'était mieux que le match d'aujourd'hui.
Ce que j'allais dire, c'est qu'en tout cas, c'était le match avec où il y avait le plus de tension, le plus d'intensité, le plus d'engagement. Donc, c'est un point positif aussi.
Maxence, merci en tout cas. Salut.
Merci à
merci
vous.
Salut Maxence.
Bon courage. Laure, merci.
Merci.
Tu reviens, bah, tu es là tout le temps, là, hein, pendant la commune féminine, de toute façon, t'es chez toi. Désormais. Nous, on continue le débat. On va également parler du mercato du PSG qui commence à s'animer avec Mino Raiola qui est à Paris. Voilà, Mino Raiola dans sa poche, il a plein de gars, hein, potentiels.
Donc, et la prolongation
de Cavani qui effectivement magnifique. Est également est dans les tuyaux. On va en parler dans quelques instants. 2-1 pour l'équipe de France féminine face à la Norvège. Les débats continuent dans l'after dans quelques instants avec vous. À tout de suite.
RMC l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak. Allez, la conférence de presse de Corinne Diacre est en cours. On va écouter quelques réponses de la sélectionneur française.
Donc, pour nous, le goal à virage, normalement, ne nous servira pas, puisqu'on va aller chercher les 9 points, tout simplement.
Ah bah, bon, on arrive à la fin du coup. Donc, oui, donc elle dit que le virage ne servira pas, donc elle est déjà dans les calculs sur une éventuelle qualif. Oui, alors je rappelle quand même cette donnée importante. Si la France termine une première de sa poule, paradoxalement, c'est pas forcément une super opération, puisque tu as les États-Unis en quart, qui ont quand même été l'équipe largement la plus impressionnante. Bon.
Mais faudra battre tout le monde. Hein.
Ou sinon, c'est Italie-Angleterre.
Faudra battre tout le monde si
tu veux être respecté si t'es deuxième.
L'équipe de France masculine s'est bien tapé l'Uruguay à un moment dans son tableau, donc faudra battre tout le monde.
Certes. Alors, quelques réactions les gars pour conclure sur les filles. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit mais comment est-il possible que Wendy Renard? Bon bah oui la pauvre. Alors, on me dit oui effectivement c'était mieux que France Andorre, mais il faut aussi souligner que quand le match est mal filmé, me dit Sneak, on n'a pas une bonne notion du rythme. C'est vrai qu'hier quand t'avais les caméras au ras de la pelouse, tu te rends moins compte.
La réalisation hier c'était quelque chose. Hein.
Bah oui, c'est
posté une GoPro à l'entrée des vestiaires.
C'était un peu, tu sais, arrêt, c'est quoi.
Non, ça ressemblait au match de Coupe de France, tu sais, sur les terrains amateurs, quoi, voilà.
Ouais.
Ah bah c'est ça, hein.
Exactement, ouais.
Bon. Voilà pour l'équipe de France, donc qui rejoue lundi face au Nigeria. On aura l'occasion d'y revenir d'ici là avec l'actu des Bleus, et le match lundi sera sur RMC. On va passer au dossier PSG, au dossier Raiola, mais juste avant, je vais vous livrer le communiqué de presse d'RMC Sport du jour concernant nos potes Daniel Riolo et Jérôme Rotten. Donc suite à l'affaire Neymar et donc les propos tenus jeudi dernier dans l'after, Daniel et Jérôme, je lis le communiqué, ont présenté publiquement leurs excuses en direct donc dans l'after et sur leurs réseaux sociaux personnels. Donc aujourd'hui, ils ont été suspendus d'antenne en attendant leur entretien par la direction. Entretien effectué aujourd'hui et donc il a été décidé qu'ils n'auraient aucune activité sur l'antenne d'RMC jusqu'à lundi prochain. Donc retour de Daniel et Jérôme dans l'after lundi de la semaine prochaine. Et moi je vous remercie, Jonathan, Ludo, tout le monde et d'avoir répondu présent.
On va pouvoir enfin passer à autre chose.
Voilà, exactement.
Et on est content qu'il revienne. Eh
bien évidemment.
Alors, Mino Raiola est à Paris et là on vous attend au 32-16. Alors évidemment, dans ce genre de
ça commence l'été là.
D'actualité, il y a toujours info et puis démenti et puis qu'est-ce qui se passe vraiment, bon bref. Si Mino Raiola est à Paris en période de mercato, évidemment que c'est pour discuter avec le club. Ce qu'on peut vous donner, nous, comme info ce soir, c'est qu'il a rencontré Antero Henrique. Voilà, clairement, il l'a rencontré aujourd'hui, donc une nouvelle fois, si c'est pas pour parler de Liert, c'est pour faire quoi? Aujourd'hui, les infos qu'on peut vous donner par ailleurs, vous les retrouvez sur rmcsport.fr, c'est que De Liert a le choix entre le Barça et le PSG, mais meilleur salaire au PSG, et on parle d'un accord avoisinant les 75 millions d'euros. Et le PSG, selon les infos d'RMC Sport, est désormais en pole position sur le dossier. Donc,
c'est un
concernant,
prix fixe, hein, 75, Gilbert.
Concernant le défenseur de l'Ajax.
C'est le prix est fixe, hein, n'importe, c'est pas ça le problème, c'est pas le montant du transfert. Ça sera 75 millions pour n'importe quel club qui le veut. Mais après, écoute, s'il vient, mais c'est un super coup. C'est clairement, il est appelé à devenir le meilleur défenseur, si ce n'est un des meilleurs défenseurs centraux à évoluer en Europe. Là, pour l'instant, il est pas loin du top avec son pote Van Dijk. Mais écoute, ça serait un coup qui serait énorme. Le Paris Saint-Germain, à un moment, c'est vrai que ça pouvait paraître un petit peu polémique, mais j'ai toujours pensé que le PSG ne gagnerait jamais la Ligue des Champions tant qu'il n'achèterait pas un défenseur central de haut niveau. Alors. On m'a dit, il y a eu David Luiz. Mais David Luiz, avec ses problèmes de concentration, on a vu ce que ça a donné. Thiago Silva, maintenant, je pense que les auditeurs le savent. pense que c'est pas un défenseur pour des matchs à pression. Il y a pas juste le fait les larmes, etc. Je l'ai vu plein de fois connaître de grands naufrages, que ce soit avec le Brésil en Copa América contre le Paraguay ou avec le Paris Saint-Germain. Il faut qu'il parte. Il a 34 ans maintenant. Je pense que l'histoire arrive à sa fin. Et tu imagines une charnière avec De Ligt et Marquinhos. C'est le futur. C'est parfait. C'est complémentaire. C'est dur sur l'homme. C'est bon techniquement. Ça serait idéal.
J'ai pas l'impression que ça va être la charnière De Ligt Marquinhos. Marquinhos, j'ai l'impression que Thomas Tuchel, lui, veut l'installer au milieu de terrain maintenant.
Toi, tu gardes Thiago Silva.
Ben, je pense qu'ils vont garder Thiago Silva. Moi, je le garderai pas. Mais après, ça n'engage que moi. Mais au vu des dernières.
Ah ouais, il est là, il t'écoute.
Ouais, ben, je vois ça, ouais.
Mais tu dis qu'il veut mettre Marquinhos au milieu. Il l'a dit que c'était du bricolage.
Non, je crois pas. Je crois qu'il a beaucoup aimé ses prestations au milieu de terrain. Et je crois, dur comme fer, qui, si Thomas Tuchel reste et que Thiago Silva est toujours là, il installera les deux en défense centrale et il gardera Marquinhos au milieu.
Ça serait dommage.
Et après, c'est une vraie bonne recrue, parce que ce qu'on cherche aussi dans cette équipe du Paris Saint-Germain, au-delà de la qualité du joueur et de sa magnifique épopée en Ligue des Champions, c'est surtout le caractère. Or, ce joueur, il a que 19 ans, mais alors quel caractère. Je l'ai vu prendre la parole en public du titre de champion avec l'Ajax. Il en impose. Quoi, tu vois, même sur corner, tu vois, il prend ses responsabilités, il marque souvent des buts, même dans sa, c'est un patron.
Et puis il y a un potentiel.
À 19 ans, c'est déjà un patron.
Mais il y a le potentiel aussi. T'as le potentiel de développement du joueur, t'as le potentiel de revente. On sait jamais ce qui peut se passer avec la direction. Si jamais à un moment t'as besoin de récupérer de l'argent, tu sais que c'est un joueur qui va forcément prendre de la valeur. Et après, Marquinhos, moi je suis pas sûr, Ludo, parce que là quand même, il prospecte pour acheter des milieux de terrain.
Je vois pas pour l'instant Thiago Silva partir. En tout cas, c'est pas dans les papiers, c'est pas ce qui se profile. Donc si Thiago Silva est là, ça m'étonnerait qu'il laisse Thiago Silva, à moins qu'il joue avec une défense à 3, ce qui est possible aussi, parce
qu'il aime bien le faire.
Mais bon, dans une défense à 3 avec 3 droitiers, ça me paraît un peu bizarre.
Si jamais ça se fait, je regardais juste Thiago Silva, quand même vraiment 34 ans. Et 34 ans bien tassé. Enfin, il aura 35 ans.
Il est lui le digne successeur de Thiago Silva. Mais si t'as une défense centrale Marquinhos, De Ligt,
c'est une évidence.
Tu t'assures une certaine sérénité pour les 3-4 prochaines années.
Mais oui, parce que Marquinhos est encore très jeune. Après, il va se poser une question. Si cette arrivée se confirme, quid de Kimpembe? Kimpembe qui a fait une saison atroce, qui à mon avis est un des joueurs qui a le plus mal digéré son titre de champion du monde. Il va falloir qu'il se remette en question.
Si pour une saison, il te faut 4 défenseurs centraux.
Ouais. Mais est-ce que Kimpembe
pas sur le garçon ait envie de rentrer dans un système de turnover?
Il a pas le profil, ouais. Et c'est un joueur qui est jeune, il a besoin de jouer.
Là, il arriverait quatrième dans cette hiérarchie, quoi.
Exactement. Et il a besoin de jouer, il va avoir besoin de jouer. C'est un joueur qui est encore jeune, là. Il a encore une marge de progression qui est énorme. Il faut qu'il joue. Donc, est-ce que ça annoncerait pas le départ dans des défenseurs centraux du PSG? Je pense pas que Marquinhos va partir. Je pense pas que Thiago Silva, comme tu l'as dit, va partir. Parce que de toute manière, maintenant, Thiago Silva a 35 ans. Il est amené, énorme retournement situation, à terminer sa carrière au Paris Saint-Germain, et du coup ça met vraiment Kimpembe sur la sellette.
Alors certes, la défense centrale c'était peut-être pas forcément la priorité, parce que c'est le milieu de terrain aussi. Non, pour moi c'est
les deux.
C'est tout de suite le milieu de terrain quand tu cibles vraiment l'axe prioritaire, c'est le milieu de terrain qu'il faut renforcer. Ce garçon-là, ça serait une vraie bonne pioche, et ça serait une belle réponse au Barça qui t'a piqué De Jong sous le nez.
Attention.
Après, tu payes aussi le fait que t'as pas encore l'aura du Barça, tu surpayes un peu au niveau du salaire du joueur. Mais bon, si c'est le prix à payer pour pouvoir attirer.
Je crois qu'ils l'ont pas surpayé le Barça.
Non, il lui proposait 8 millions ou 9 millions, j'ai vu. Paris lui proposera 13 ou 14.
Bon, non, mais
13,
pour,
14,
j'ai pas ce que j'ai oublié le nom, mais pour l'autre de l'Ajax.
Pour l'autre de l'Ajax, c'est-à-dire?
De Jong.
Pour De Jong, ils l'ont pas donné un salaire de ministre aussi? Ils ont été obligés aussi, Il a un salaire qui est énorme, De Jong, au Barça. Il a un salaire qui est quasiment au niveau de celui de Neymar.
Je te parle pas de De Jong, je te parle aujourd'hui. Le joueur, il se pose des questions. C'est pas sur le projet sportif. Ou à moins que on lui promette peut-être plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Mais
au Barça, il y a du monde.
Ne se mentons pas. Le fait d'avoir 5 millions d'euros de salaire en plus par an, ça pèse aussi dans la balance.
Après, juste au milieu de terrain, une dernière chose.
Vas-y.
Attention, je pense vraiment que Paredes, il est arrivé avec voilà une préparation tronquée, avec le calendrier décalé.
Je pense qu'il va être meilleur.
On en a aussi, il sera meilleur. Je te dis pas qu'il aura le niveau. Attention, je ne te dis pas qu'il aura le niveau pour être titulaire dans cette équipe-là, mais ça sera un joueur qui deviendra utile dans la rotation. Utile, oui. Après, il faut recruter un titulaire à côté de Marco Verratti. C'est un impératif catégorique. Mais Paredes, je pourrais compter dessus l'année prochaine pour être un très bon remplaçant.
Alors, l'autre info du jour, elle concerne Cavani. Cavani, la porte est ouverte pour une prolongation. Alors, vous savez qu'il est en contrat jusqu'en 2020. Et là, Enrique a contacté l'entourage de Cavani, là. Son agent. Parce qu'on dit l'entourage, tout derrière rien dire. Enfin,
son frère.
Peut-être son frère. Mais enfin, bon. C'est vrai qu'il faudrait être plus précis que l'entourage. Si on dit l'entourage, ça correspond à quoi, l'entourage?
C'est une série pour moi.
Bon. En tout cas,
est-ce qu'on a des infos là? Leonardo, c'est lui qui a la manette.
Attends, je finis juste.
C'est lui qui a la manette de tout ça ou?
Alors, est-ce que c'est
qui est aux manettes
en sous-main? Je sais pas.
En tout cas, c'est
Enrique.
C'est un peu troublant. Hein.
En tout cas, c'est Enrique qui travaille une prolongation de contrat d'un an de plus pour Cavani.
Mais oui, il faut. Voilà. C'est impératif. Est-ce que vous avez vu les banderoles pour Edinson Cavani sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain? Les banderoles au parc ou les banderoles sur le périph en arrivant au Parc des Princes en disant Cavani c'est Paris? C'est obligatoire pour maintenir un lien avec tes supporters de garder le joueur qui est le joueur chouchou du parc et qui est encore performant. Il a une saison qui a été tronquée et gâchée par des blessures, mais tu le vois, le mec il incarne un vrai état d'esprit dont tu vas avoir besoin l'année prochaine en Ligue des Champions.
Tu prêches un convaincu, d'autant
c'est
plus.
C'est obligatoire.
D'autant plus qu'aujourd'hui, pour trouver, je trouve que même s'il est amené à être à ce poste-là rapidement, et je militais pour ça au début, et j'en suis moins persuadé maintenant. Mbappé est pas encore prêt pour jouer être numéro 9 du Paris Saint-Germain. Donc il le sera, mais peut-être pas pour l'instant, à moins qu'il parte ailleurs. Mais dans cette optique, c'est, je crois que trouver un numéro 9 de la qualité d'Edinson Cavani
et qui est prêt à se sacrifier autant
et qui a l'esprit d'équipe,
le sens du sacrifice pour les deux, pour Neymar et Mbappé, c'est hyper important.
Ça va dans le bon sens.
Et oui,
de le faire prolonger.
Et je pense que quand on refermera au moment du départ de Cavani, je pense qu'on se rendra compte que Cavani c'est simplement le plus grand numéro 9 de l'histoire du Paris Saint-Germain, pas Oleta ou pas.
Thomas, bonsoir.
Ouais, salut Gilbert.
Salut.
Bon, ça bouge
salut,
là.
Ludo, salut Ludo.
Salut.
T'es content des infos du jour là?
Vous parlez, enfin, on va dissocier les deux cas quand même. De Ligt, forcément, je suis content parce que ça représente pour moi, on va dire, c'est l'avenir à son poste. Il a déjà prouvé qu'il avait le niveau international avec l'Ajax et les Pays-Bas.
C'est le présent et le futur.
C'est le présent et le futur, voilà. C'est peut-être le défenseur des 10 prochaines années. Et puis le cas Cavani, moi je suis très satisfait parce que je suis un amoureux de Cavani forcément. Et d'une part parce qu'en plus il était en fin de contrat et que leur signer un an, je pense que c'est le vrai bon choix en fait, parce que ça te permet de lui redonner une chance sur une saison. Comme tu l'as dit, Joe, il a été blessé, il a fait 4 mois aller à haut niveau, on va dire. Et puis ça permet aussi si les trois ne bougent pas devant, de remettre la NCN, comme on dit, sur une année et de les voir vraiment ensemble. On va espérer enfin une année ensemble, les trois à jouer ensemble, quoi. Et puis voilà. Et pour finir aussi, il y a pas 36 numéro 9 sur le marché.
Exactement, ouais.
Du talent de Cavani et ce serait très bien de le garder dans l'effectif.
Ah, dernière petite info, le PSG et Lille négocient pour le transfert de Timothy Weah. Il était prêté cette année donc en Écosse au Celtic, et donc il pourrait finalement ne pas rentrer à Paris mais atterrir directement à Lille. Donc
ouais, à 10 millions.
On
à
parle
10 millions,
de 10 millions.
Ouais.
J'ai vu qu'ils étaient sur Nzoki aussi. Bonne pioche, j'ai envie de te dire, ils préparent aussi l'avenir, nos amis lillois. Le fait qu'il y ait énormément de joueurs en stand-by au Paris Saint-Germain, des Draxler, des Dani Alves, ça laisse moins de place pour les jeunes. Ces jeunes-là, ils ont besoin de se développer. Je pense que c'est une erreur du Paris Saint-Germain. Ils devraient garder quand même ce type de joueurs dans leur effectif. Mais bon, écoute, ils sont amenés à se développer, donc Lille en tire
attention, Ludo,
avantage, tant
attention,
mieux pour eux.
Parce que Timothy Weah, je l'ai vu avec les Celtics, il y a encore du boulot. Il y a vraiment encore du boulot.
C'est ce que je te dis, dans une optique de développement, et ça rentre.
Ah non, Hudson Edouard, par exemple, est largement au-dessus de lui.
Mais ça rentre totalement dans le projet lillois de prendre des joueurs qui sont en développement, payés pas trop cher, et sur qui tu feras, et si tu le payes 10 millions, tu le fais un peu comme Léao a fait cette année. En plus, en jouant en Ligue des Champions, t'as une visibilité.
Ouais, on verra.
Du coup, ça rentre totalement dans la politique sportive du LOSC.
Dans quelques instants, nous sommes de retour. Fred Hermel sera sera là pour nous annoncer que Ferland Mendy est définitivement un joueur du Real. Et puis toutes les infos du jour, on va notamment parler du Capuche Gate en équipe de France hier soir en zone d'interview. Je vous rappelle que la France a battu la Norvège 2-1 chez les filles tout à l'heure et on se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Jonathan Vaccardi, Ludovic Obraniak, Fred Armel nous rejoint dans quelques instants. Juste avant, le Capuche Gate. Alors, ça s'est passé hier soir dans la zone d'interview. Voilà, c'est peut-être pas si anodin que ça, vous allez dire ce que vous en pensez. Donc, Kylian Mbappé se pointe pour répondre aux médias. Et il a une casquette surmontée d'une capuche. Là, un joueur d'Andorre passe derrière lui, lui fait une blague un peu pourrie, enfin bon, il fait une blague, pam, il lui retire la capuche. Donc on voit Mbappé un peu contrarié comme ça. Et derrière, Griezmann qui vient, qui lui dit, bon attends, même la casquette, c'est trop là, Kylian. Voilà, en mode, je te fais un peu la leçon. Donc, vraisemblablement, il n'est pas trop apprécié, Kylian Mbappé, ça lui a pas trop plu. Le joueur andorran en question, qui s'appelle Christian Martinez, il explique aujourd'hui à RMC Sport, il dit, bah moi, c'était une petite blague, quoi, tu vois, je pensais pas que ça allait faire le tour du monde, on l'écoute.
Je sortais avec Antoine, on était dans les vestiaires, on sortait, on était en train de dialoguer normalement, et je sors, juste je fais la... Je vais en train de partir pour aller chez moi, donc je vois Kylian qui est en train de faire une entrevue avec le périodiste, et je le vois avec la casquette, hein, mais en mode sympa, pas en mode de lui faire fâcher.
Bon, voilà, donc... petite histoire, puis bon. Aucune importance, on revient pas avec une casquette ou une capuche dans une zone d'interview.
Je crois que surtout qu'il avait pas le sponsor adéquat sur la casquette et que
c'est
pour
théorie.
Ça qu'il mettait
là,
la
tu sens l'ancien fouteux là.
Bah, attends,
l'expérience.
Griezmann, surtout Griezmann, très très bon sur le coup, parce que tu sentais que Mbappé avait peut-être envie de s'énerver. Le Griezmann arrivé, elle a dégonflé ça en 3-4 secondes, c'est parfait.
Bon, voilà, c'est la petite histoire. Bon, de moralité, plus.
Il est fatigué, Mbappé. Il faut qu'il porte.
Pas sûr que Nike, ils aient apprécié le sponsor sur la casquette, tu vois.
C'était donc. Quoi, d'ailleurs?
Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais.
C'est chaud, c'est un truc genre NASA, je sais pas quoi, une casquette de c'est Nike qui fait ça, j'en sais rien.
Bon, donc, ce qui explique peut-être la capuche et puis le fait que, peut-être qu'il va être sanctionné, financièrement, parce que quand tu mets pas les...
Peut-être un partenariat avec la NASA à mettre en place.
Après, c'est quand même, il faut quand même dire que c'est pas une tenue à avoir quand tu te présentes face à un journaliste, quoi. Casquette capuche, non, c'est pas... Mais bon, moi, ce que je préfère revenir, c'est là-dessus, c'est comment Griezmann a géré le truc.
Quand je vois la dégaine que t'as eu au match de l'after, franchement.
J'aurais dû garder les lunettes de
soleil.
J'aurais dû
garder ta capuche.
J'aurais
mieux fait de pas te changer tout court.
Deux petites infos encore. La DNCG ce soir a rétrogradé en National 1 Sochaux et Nancy. Alors évidemment, on va pas s'exciter parce qu'il y a possibilité de faire appel. Nancy a déjà dit ce soir qu'ils allaient faire appel. Voilà. En tout cas, si en appel, Nancy et Sochaux sont confirmés en National 1, le premier club qui serait repêché serait le Gazélec et le deuxième qui serait repêché serait Béziers. Mais on en est encore loin, évidemment, puisqu'il y a possibilité de faire appel.
C'est la semaine prochaine.
Et puis dernière info avant d'accueillir Fred, l'Algérien Belkebla exclut de la sélection pour la CAN.
Oui.
Parce que je sais pas ce qu'il lui a pris, défenseur de joueur de Brest. Il est en vidéo sur Twitch avec des potes à lui, voilà. Et puis tout à coup, il a montré ses fesses. Donc ses coéquipiers, même son sélectionneur, l'ont défendu, mais la Fédé a rien voulu savoir. À la maison.
On va faire un peu une page CAN bientôt.
Oui, bientôt.
Il y a quand même des histoires pour l'instant dans la préparation de la CAN.
Toujours.
Assez, mais
la CAN c'est un nid à histoire.
Succulente.
Toujours. C'est génial.
Succulente.
Fred Hermel, bonsoir.
Heureusement que je suis pas filmé quand je fais l'after depuis la maison.
Oui, non, c'est mieux.
T'as
toujours tes caleçons d'Ali Beckham, c'est célèbre.
Là, c'est, je suis pas en caleçon, j'ai le short Racing Club de Lens.
Je crois, ouais.
Attends.
C'est vrai. Parce que moi, dès qu'il y a Ludo, je suis habillé en Lensois.
Fred, il peut être nu aussi avec juste l'écharpe du Racing Club.
Mais ça m'étonne que t'es pas comme Nico Villas, les sous-vêtements Cristiano Ronaldo.
Non, moi j'avais les Beckham.
Le caleçon orange plus haut CR7 de Nico Villas.
Ils sont très très chers, les CR7. Ouais.
Le Villas, il a du pouvoir d'achat.
Il est blindé, ouais.
Bah ouais, c'est ça, bah.
Bon, tu nous avais annoncé Ferland Mendy, c'est fait.
Oui, rappelle-toi la semaine dernière avec son agent.
Oui.
Qui faisait semblant que c'était pas fait. Mais non, si,
c'est le roi du bluff qui vend le mai.
C'est normal. Après, il fait son boulot et en tout cas, encore un coup de Zidane. C'est-à-dire que Zidane avait réclamé Hazard, il avait réclamé Jovic, il avait réclamé Mendy, là. Présentation. mercredi prochain à 13h au Bernabéu. Alors 6 ans de contrat, un montant du transfert estimé à 48 millions d'euros plus 5 en bonus variable.
Si c'est pas estimé, voilà. Si c'est Lyon qui l'annonce, son côté en bourse, on vient de donner le montant
donc,
exact.
Tu as raison de préciser. Donc voilà, c'est un bon coup pour Lyon. Et puis voilà, le président Pérez fait.
T'as 48 millions d'euros quand même.
Ouais. Bah tu sais,
c'est le prix pour un bon latéral.
C'est compliqué. Alors pourquoi il vient Mendy? Je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière quand son agent était là, c'est-à-dire que Zizou considère que Reguilón, le jeune latéral gauche, est un peu vert, ne peut pas faire peur en gros à Marcelo, et qu'il veut un vrai concurrent pour Marcelo, et un concurrent qui va non seulement être dans l'émulation pour les matchs, mais aux entraînements, mais aussi jouer beaucoup, beaucoup de rencontres. Le pari, c'est une quarantaine de matchs dans la saison, on fera déjà un point à Noël, mon cher Gilbert, mais Mendy va beaucoup, beaucoup jouer, avec un Zidane qui tourne énormément.
303 Merci millions Fredo. Déjà balancés par le Real, les gars.
Merci, c'est
rien.
C'est court, Fredo, mais on n'a pas plus de temps, malheureusement.
Voilà, oui, un truc très important, demain, présentation d'Eden. Galactique d'Eden Hazard à 19h.
Tu nous raconteras.
Voilà. L'idée du Real, c'est de battre le record d'affluence de la présentation de Cristiano Ronaldo il y a 10 ans. Il y avait eu 70 000, ils veulent faire mieux.
Ouais, les gens, ils viennent juste pour le voir jongler 3 fois, puis mais bon, ils viennent, c'est génial. Delors signe à Montpellier pour 4 ans par ailleurs aujourd'hui. Et puis sachez que la Liga aura bientôt un Neymar Uber Eats. Donc dans un an et demi, la Liga s'appellera Ligue 1 Uber Eats.
Sans commentaire.
Très bien. Une dernière info, très vite. Un truc absolument génial. En Italie, un collectif de coursiers à vélo a fait une blacklist des joueurs italiens les plus radins qui ne donnent pas de pourboire quand ils sont livrés. Je vous donne la liste. Il y a Higuain, Bonucci, Icardi et sa femme. Et il y a un Français.
Icardi et sa femme.
Et il y a un Français. Philippe Mexès, le mec ne donne pas de pourliche. Il vit toujours à Rome. Voilà. L'an dernier, Ronaldo avait laissé 20 000 euros de pourboire aux employés d'un hôtel de luxe en Grèce, quand même.
Donc, mais Icardi et Wanda, il les collectionne cette année. C'est fabuleux.
C'est fini pour ce soir. L'after revient demain à 22h. On parlera Copa América demain, plus toute l'actu du jour, bien sûr, les gars. À demain 22h.
RMC, l'after foot.